Épilogue. Chapitre 1. Les années vides. Pour Thérèse, tout l'essentiel de sa vie avait tenu en moins de 3 années, en 2 idylles qui s'étaient effondrées l'une et l'autre, dans ce brouillard où l'on cherche à tâtons ce qu'on a perdu. Ce fut en vain qu'elle attendit de Marmaujon un mot de compréhension ou une sentence de rupture. Il n'écrivit jamais. À Paris, elle ne le revit pas. Peut-être avait-il commencé 20 lettres pour elle, peut-être avait-il changé 20 fois de décision. Comment l'aurait-elle su? Des 2 hommes que la fatalité avait mis en travers de son chemin, l'un, énigmatique jusqu'au bout, avait aimé Thérèse d'une passion violente, rageuse et passagère, et elle, Thérèse, avait cru l'aimer, l'avait aimé un peu sans doute. Le second, sincère et simple, et prodigieusement ennemi des faux-semblants, et secourable et désintéressé, avait reçu gratuitement de Thérèse ce qu'elle n'avait jamais pu donner à Pierre, sa confiance parfaite et le meilleur amour qui était en elle, la tendresse, l'infinie tendresse qui, au moindre choc, fait vibrer l'être d'une commotion profonde, la tendresse qui comprend tout, qui excuse tout et qui ne ment point. Ce don le plus précieux qu'une femme puisse apporter à un homme, il l'avait refusé. Par orgueil et par chagrin jaloux de n'avoir pas été le premier, on ne sait, il ne l'a pas dit. Du reste, avait-il su voir le cœur de Thérèse? 3 ans plus tard, elle apprit qu'il épousait sa charmante cousine, Beaupassel. Dans l'intervalle, Thérèse allait et venait de Suisse à Paris ou en Angleterre. Quand elle écrivait, d'après un bois, une histoire innocente et futile, elle pensait « C'est lui qui m'a mis cela dans les mains. Il s'inquiétait de mon avenir. » La nécessité de gagner sa vie est une vraie ceinture de sauvetage quand une tempête vous submerge et que le naufrage est imminent. Thérèse se refit une vie avec le travail, les amitiés et 1000 intérêts. Elle découvrit que son petit talent était celui d'une conteuse. On accorda quelque attention aux histoires qu'elle contait. Très modestement, elle moissonna quelques glanes dans un étroit champ littéraire. Les questions du jour et les activités sociales, en même temps que les profondes affections de famille, avec leurs épreuves et leurs deuils, l'accaparèrent. Mais jamais, ni au matin quand le souvenir se réveille criant, ni le soir où l'esprit là s'enfonce dans ce qui aurait pu être, Thérèse n'essaya même de se dire « Je n'aime plus celui que j'ai aimé ». Une fois, en Suisse, les chemins des hasards qui se croisent lui firent rencontrer Marmaujon. C'était en été. Thérèse faisait un court séjour dans la jolie vallée verdoyante dont Marmaujon lui avait dit « Je n'y suis jamais allée, bien que ce soit le lieu d'origine de ma famille. » Elle apprit tout à coup qu'il y passait ses vacances chez des amis à elle qui l'invitèrent pour un pique-nique à la montagne. Après avoir hésité, elle accepta. Elle était préparée à tout, pensait-elle, à son indifférence, à son oubli, à son amabilité polie. Elle n'était pas préparée à le voir si peu changé. Les années avaient passé sur lui comme un jour. À vrai dire, même à Paris, il n'avait jamais paru jeune. Elle le revit tel qu'au bureau Saint-Germain, à son pupitre ou au seuil de la grotte. Quelqu'un, une amie bien intentionnée, prononça « Je n'ai pas à vous présenter l'un à l'autre, vous vous êtes rencontrés à Paris, n'est-ce pas ?»« En effet, il y a longtemps de cela, je ne m'attendais pas à vous revoir, » dit Thérèse en tendant la main à ce revenant. Les épaules plus affaissées pourtant et le teint un peu cireux, comme autrefois un veston aux poches déformées, une cravate lâche. Moins de correction encore qu'à Paris, à la montagne, c'était naturel. Thérèse retrouvait ce sourire qui, sous la moustache, relevait un coin des lèvres plus que l'autre. Et, tout à coup, à un mot équivoquement stupide du fils de leur hôtesse, elle entendit le même éclat de rire, de dérision pas méchante, ce rire qui n'était pas gai, mais honnête et direct comme un grand coup de vent, et qui semblait enfoncer une vitre derrière laquelle s'embusquaient des prétentions et des apparences fallacieuses. Thérèse crut revoir un certain quai de Paris, non loin de l'exposition des tableaux de Millet, où le même éclat de rire avait fait se retourner un passant. La petite caravane se mettait en marche vers un sommet rocheux où l'on se proposait de goûter. Mais on était parti un peu tard. Derrière soi, la vallée ne brillait plus. un seul clocher accrochait encore la dernière étincelle et l'ombre se mettait en marche pour éteindre les pentes. « Montons vite, rattrapons le soleil !» fit Marc Maujon à Thérèse. « J'ai horreur d'être rejoint par les ombres. C'est comme une petite mort. » Ils se hâtèrent et finirent par tomber sur le roc encore ensoleillé. « Gagné !» fit Marc Maujon. « C'était un pari ?» demanda Thérèse. « Un pari contre la destinée. Les ombres ne mourront pas encore cette fois. »« Que vous êtes étrange !» fit-elle. « Ne dites pas Nora Sénic, trop de gens me l'ont dit. »« Vous êtes très essoufflé, » poursuivit Thérèse inquiète. « C'est fou de courir ainsi en montant. » « Mon insuffisance mitrale doit s'être corrigée, car vous voyez que je ne suis pas encore tombée au pied de la colonne Vendôme. Je grimpe toujours très bien. » Thérèse étendait la main pour cueillir un œillet de chartreuse, la frêle petite fleur rose sans parfum qui se dresse au bord des roches grises et parmi les perfides gazons secs et glissants. Elle tendit l'œillet à Marc. « Pour votre boutonnière, » dit-elle. « Ce sera un souvenir, » murmura-t-il encore un peu hésitant. Puis il ajouta, regardant Thérèse bien en face, « J'aurais dû vous écrire. » Elle reçut ce mot comme un choc en pleine poitrine. Elle sentit son cœur s'arrêter 2 secondes et puis battre affolée. Elle eût été incapable d'articuler un mot. Elle devait être pâle, car il dit en hésitant, « Pourquoi ai-je dit cela? À quoi bon? Je vous cause une émotion. Pardonnez-moi, en vous revoyant si peu changé. Vous n'êtes pas changé non plus. Oh, moi! Mais oui, en effet, je suis toujours le même. Distingué, mais indécis, ne put-elle s'empêcher de citer. Vous n'avez jamais rien compris à ma nature, ni vous, ni personne d'ailleurs, fit-il avec tout à coup une sorte d'emportement amer. Je suis incertain, c'est vrai, jamais sûr de ne pas me tromper. Je délibère, alors le doute augmente. Il faut qu'on prenne une décision pour moi. On pardonne à un homme tous les défauts, sauf d'être indécis. C'est souverainement injuste. Vous auriez dû m'écrire, fit-il après un moment de silence. Moi ? S'écria Thérèse. Ah non ! Je m'étais assez humiliée comme cela. Moi, vous pourchasser, quand vous étiez partie pour ne pas me revoir ? Ce que votre amie m'a révélé, c'était bien de votre part qu'elle me le disait. Elle était d'avis, et moi aussi, que je ne pouvais loyalement attendre votre demande sans en faire d'abord l'aveu. Et si je m'étais avancé formellement avant de savoir, il m'eût été impossible de reculer. Marc Maujean s'arrêta, puis, à la stupéfaction de Thérèse, il se tourna vers elle d'un air de reproche irrité. « C'est ce qu'il fallait faire, comprenez-vous, avec un individu de mon calibre. Il fallait... »« Ah, taisez-vous, » dit Thérèse, « vous me gâtez ce qui restait. »« Qu'est-ce qui restait ?» insista-t-il. Mais elle se leva sans répondre. Où allaient-ils tous deux avec cette conversation ? Marc Maujon était plus changé qu'elle n'avait cru. Est-ce que, peut-être, sa désillusion avait tourné en regret aigre dans le fond de son caractère ? Avait-il vraiment attendu un mot, un geste, comme elle aussi avait attendu en vain ?« La vie est un colin maillard, » pensa-t-elle. « On ne sait bien ni ce qu'on poursuit, ni ce qu'on atteint, ni ce qu'on manque. On court après on ne sait quoi, dans l'obscurité. » Le reste de la société les rejoignait. On déballa les paniers du thé. On s'assit en cercle sur une petite pelouse d'herbe fine et de serpolet. Le fraise y ouvrait déjà ses minuscules trompettes qui sonnent le départ de l'été. Quelqu'un fit remarquer que l'automne approchait, que les années passent vite, qu'après tout, elles se ressemblent toutes et n'apportent rien de bien nouveau. « Pensée aussi banale que navrante, buvons du thé là-dessus » dit l'hôtesse en remplissant des tasses que les messieurs passèrent aux dames. Thérèse était assise un peu en dehors du groupe. Marc lui apporta sa tasse et au lieu de se baisser pour la lui tendre, il se mit à genoux. « Le geste en retard » murmura-t-il. Comme on allait redescendre, l'hôtesse dit à Thérèse « Nous attendons Madame Marc Maujon un de ses jours. Vous aurez du plaisir à refaire sa connaissance. Je sais que vous étiez assez liés à Paris. » « Je regrette, » répondit Thérèse, « mais il faut que je parte demain. » Le lendemain, comme elle montait en wagon, elle aperçut sur le quai de la petite gare rustique Marc Maujon qui lui adressait un geste interrogateur en soulevant son chapeau. Elle inclina la tête, elle sourit. Ah, la tendresse était bien toujours là, frémissante et douloureuse. Thérèse s'arrêta sur la petite plateforme du wagon. Marc Maujon monta les trois marches de fer. « Je tenais à vous souhaiter bon voyage, » dit-il. Il lui parut de nouveau très essoufflé, avec moins de raison que la veille. « On dirait que vous avez couru, » fit-elle. « Vous ne devriez pas courir. » « J'étais en retard parce que j'ai hésité à venir. Toujours le même, vous voyez. Mais il y a un train pour lequel je ne serai pas en retard, le dernier train de nuit. » « Celui que nous prendrons tous, » fit-elle presque durement. « Ça ne vous ressemble guère de vous attendrir sur vous-même et de vouloir m'attendrir par des propos funèbres. » Il parut à peine l'écouter. « Nous devrions nous revoir. N'est-ce pas possible, à présent que le plus mauvais est fait ?» demanda-t-il avec une maladresse d'expression qui toucha Thérèse, car il y retrouva la gaucherie qu'elle aimait autrefois. « Impossible, non, mais difficile. Vous habitez Paris, moi je vais et viens. » « Pensez-y tout de même. Votre joli chapeau garni d'épis jaunes, qu'est-il devenu ?» L'employé sur le quai sifflait pour le départ. Marc Maujon descendit à reculons les trois marches. Il ne s'était même pas serré la main. Lui n'avait sans doute pas osé, elle n'avait pas voulu. À quoi bon ce contact? Mais les yeux de Thérèse restèrent fixés jusqu'à la dernière seconde sur le visage tendu et pâle que Marc tournait vers elle. Dernier souvenir. Six mois plus tard, Thérèse Lemaire apprenait par un journal la mort subite de M. Marc Maujon, collaborateur apprécié de la maison d'édition Delacroix à Paris. Il était tombé par défaillance cardiaque comme il traversait la place de la Bastille. Pressentiment singulier et trop justifié par le triste événement, ajoutait le court article nécrologique, notre ami défunt avait prédit à plusieurs reprises que la mort le surprendrait au pied d'une colonne. Le génie qui survole la Bastille lui a été funeste.